Une bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
L'épisode semble s'être réglé à l'amiable avec cette délégation qui est arrivée jusqu'à Antioche, de Barsabas et de Silas. Paul va repartir en voyage, c'est son second voyage missionnaire. Le premier, c'est avec Barnabé. Jean-Marc est parti tout de suite, de Chypre. Ici, ce sera Silas, celui qui n'est pas retourné à Jérusalem et qui a voulu rester dans l'église d'Antioche. Et Timothée, qui va devenir l'un des fils spirituels, pourrait-on dire, de Paul, qui va aller là. Mais nous sortons d'une aventure qui n'est pas finie. C'est-à-dire que, malgré tout l'exposé que Pierre a eu le courage de dire à Jérusalem lors de ce qu'on appelle ce concile ou ce synode, enfin cette rencontre au sommet, pour que régler cette question-là, il y aura des irréductibilités culturelles. C'est tout l'hellénisme, c'est tout l'empire hellénistique qui va emporter le morceau, inévitablement, puisque on va aller de plus en plus vers Rome, et de Rome qui a hérité de l'Empire grec. C'est toute une autre mentalité que celle qui régnait à Jérusalem, dans laquelle ont vécu les apôtres, et dont Paul était déjà détaché, puisqu'il n'était pas là, il était dans la diaspora, il était à Tarse. Donc Paul, de plus en plus, se révèle bien comme celui qui va avancer vers les contrées nouvelles que le christianisme devra connaître. Et c'est pour ça que ce sont ces lettres, nous l'apprendrons dans une autre série d'émissions, si nous continuons, ce sont les lettres qui vont d'abord former l'esprit, donc les structures mentales, plus que les évangiles qui viendront quelques 20 ans après. Paul va écrire dès maintenant, 45, 46, 47, il va envoyer des lettres de tous les côtés. C'est celles qui circuleront que c'est difficile de bien distinguer entre la pratique d'une religion et la pratique d'une foi. La foi ayant besoin de tout un ensemble de rites, d'environnement, que ce soit un lieu, un temps, une langue, des prières codifiées, etc., etc. Bien sûr, mais tout ce qui est la religion n'est pas la foi. C'est là qu'est le problème.
Second voyage missionnaire. Paul et Silas et Timothée. Paul n'était pas un sédentaire. Au bout d'un certain temps, il proposa à Barnabas : Et si on retournait visiter les frères dans les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur ? Comme ça, nous verrons où ils en sont. Barnabas aurait bien voulu prendre avec eux Jean, appelé Marc. Mais Paul n'était pas d'avis à reprendre comme coéquipier un homme qui les avait quittés en Pamphylie, en plein service commandé. Leur désaccord prit une telle gravité qu'ils finirent par partir chacun de leur côté. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul, qui n'en démordait pas, s'adjoignait Silas et s'en allait avec la bénédiction des frères. ce second voyage devait constituer une avance vers l'Occident et devait pour la première fois mettre nos missionnaires aux prises directes avec les autorités romaines et la culture grecque. Paul et Silas parcoururent d'abord la Syrie et la Cilicie, affermissant les églises et leur communiquant les décisions prises à Jérusalem. C'est ainsi qu'ils parvinrent à Derbé et à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive chrétienne et d'un père grec. Il jouissait d'une excellente réputation parmi les frères de Lystre et d'Iconium. Paul désirait l'emmener avec lui. C'est ce qu'il fit, et il le circoncit lui-même à cause des juifs des parages qui savaient que son père était grec et pouvaient se demander s'il avait ou non laissé circoncire son fils. En effet, d'après le droit juif, Timothée, né d'une juive, était israélite. Ainsi, la décision de Paul éclaircit la situation. Il manifestait qu'il restait fidèle au judaïsme comme l'étaient les chrétiens de Jérusalem, sans dire d'ailleurs quoi que ce soit sur les raisons de cette fidélité. Peut-être voulait-il bien montrer à tous la continuité entre l'Église mère et sa propre mission chez les païens. Et Paul continua sa route, sans jamais omettre, partout où il passait, de communiquer les dernières dispositions prises à Jérusalem. Et leur travail était partout couronné de succès. Là, il semble que l'Esprit Saint prit lui-même la direction des opérations, en imposant à Paul une route à laquelle il ne pensait pas. Pour bien comprendre cela, il faut avoir une claire idée de la géographie de la région. Paul désirait se rendre à l'ouest, Éphèse et Smyrne, mais en fait, l'Esprit le fit obliquer vers le nord, la Phrygie et la Galatie. Il pensa alors continuer vers le nord, en direction de la Bithynie et la mer Noire, mais une seconde fois il dut bifurquer par la Mysie, le Bosphore, vers Troas et l'Europe. À Troas, une nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien, un Européen donc, lui apparut, et il se tenait debout devant lui et lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine, viens à notre secours !» À la suite de quoi, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine. Nous étions convaincus que le Seigneur venait de nous appeler et y annoncer la bonne nouvelle. Nous prîmes la mer à Troas, le cap fut mis sur Samothrace, nous débarquâmes à Néapolis, d'où nous gagnâmes Philippe. Philippe était une ville très importante de ce district de Macédoine. Colonie romaine depuis plus d'un siècle, située à un point stratégique de la Via Egnatia, qui reliait le port de Néapolis à l'Adriatique, elle était peuplée en partie de vétérans de Marc-Antoine et de paysans italiens, et possédait une administration typiquement romaine. Fiers de leur droit de cité romain, ses habitants avaient une mentalité bien à eux. C'est là que nous avons passé un certain temps. Le jour du sabbat, nous franchîmes la porte, encore une, de la ville, pour gagner le long d'une rivière, un endroit où, à notre avis, devait se trouver un lieu de prière. Assis dans l'herbe, nous avons parlé aux femmes qui s'y trouvaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, était toute oreille. C'était une marchande de pourpre originaire de Thyatire, le centre de teinturerie d'Asie mineure. C'était une craignant Dieu, et le Seigneur lui avait ouvert le cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. Lorsqu'elle reçut le baptême, elle et sa maison, elle nous offrit l'hospitalité. « Puisque vous estimez que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. » Elle dut nous forcer d'accepter, vu que Paul préférait pourvoir lui-même à ses besoins, mais l'église de Philippe devait être généreuse envers Paul. Un jour où nous nous rendions au lieu de prière, où nous avions rencontré Lydie, une jeune servante qui avait un esprit de divination, on disait un esprit python du nom du serpent gardien de l'oracle de Delphes. Et Lydie, donc, vint à notre rencontre. Ces oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Elle nous talonnait, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils annoncent la vole du salut !» Et elle remit ça plusieurs jours durant. Excédé, Paul finit par se retourner et dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme !» Et à l'instant même, l'esprit sortit. Ses maîtres qui voyaient s'envoler la source de leur gain mirent la main sur Paul et Silas et les traînèrent jusqu'à l'agora. la grande place centrale des cités hellénistiques où se réglaient les affaires, se faisaient les achats et se rendait la justice. Ces portiques étaient aussi un lieu de discussion et d'échanges intellectuels. On les présenta aux stratèges chargés de la justice précisément. Ces hommes jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils prennent des règles de conduite inadmissibles et interdites pour nous autres Romains. En fait, nous connaissions les vrais motifs de cette hostilité. Les Romains étaient connus, eux, pour leur bienveillance envers les chrétiens. Les maîtres de la servante réussirent néanmoins à déchaîner la foule contre Paul et Silas. Les stratèges leur firent arracher leurs vêtements et donnèrent l'ordre de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en ordonnant au geôlier de les surveiller de près. Et lui, sur cette consigne, les enferma dans le cachot le plus retiré et leur bloqua les pieds dans les ceps, des entraves fixées dans la muraille. Vers minuit, alors que nos deux compagnons en prière chantaient les louanges de Dieu et que les autres prisonniers les écoutaient, il se fit tout d'un coup un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison en furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers sautèrent. Tiré de son sommeil, le geôlier vit les portes de la prison ouvertes. Pensant que les prisonniers s'étaient évadés, il saisit son épée et allait se supprimer, puisqu'il devait en répondre de sa vie. Mais Paul hurla « Arrête ! Nous sommes tous là !» Le geôlier demanda de la lumière, se précipita dans le cachot en tremblant et se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?»« Crois au Seigneur Jésus !» et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ainsi, les deux missionnaires ne manquaient aucune occasion de travailler à la mission. Sur le champ, en pleine nuit, le geôlier les emmena laver leurs plaies. Puis, sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens, fit monter ses hôtes à la chambre haute pour les inviter à table et se réjouir en famille d'avoir cru en Dieu.
Deux petites remarques parce que l'épisode était long. La première, c'est qu'il y a missionnaire et missionnaire. On ne va pas tous avoir les mêmes idées. Et si au départ, Paul, qui semblait avoir un sacré caractère, si je peux me permettre, refuse de reprendre Marc, Jean-Marc, certainement celui qui est l'auteur du premier évangile, avec lui, c'est qu'il avait quand même la colère longue à passer d'avoir été abandonné par lui, dit-il en Pamphylie. Et si Barnabé décide lui aussi de se séparer de Paul, c'est parce que l'attitude de Paul l'aura certainement offusqué. Il partira donc avec Marc, tandis que Paul partira avec Silas et qu'il prendra Timothée après. Donc, missionnaire d'accord, mais être d'accord, pas toujours. La deuxième chose, ce sont les difficultés auxquelles on peut se heurter. Enlever les illusions des gens, surtout le côté magique des choses, démagifier, désenchanter le monde est toujours un grand risque. On préfère les mensonges parfois que l'enchantement offre plus que la réalité, en dénonçant le côté trompeur des oracles de la Pythonesse, comment Paul et Silas ont appris à leurs dépens ce que ça signifiait. Mais le miracle viendra et les épisodes continuent, l'élément picaresque avancera plus loin. Voilà.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.